Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Christophe Pallais.
Bonsoir et bienvenue dans Europe Nuit, au menu de cette prochaine demi-heure, les excuses et les explications de Gérald Darmanin, auditionné au Sénat après les incidents au Stade de France. Le Sénat qui entend ce soir mener des auditions complémentaires, compte rendu dans un instant. La fin dans le procès opposant Johnny Depp et Amber Heard, le procès qui passionne l'Amérique depuis 7 semaines. Les deux acteurs et ex-époux sont condamnés à se verser des dommages et intérêts. On sera en direct des États-Unis. À Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, dernier quart de finale homme ce soir entre le Norvégien Ruud et le Danois Rune. Nous serons en direct de la Porte d'Auteuil à la fin de ce journal. Le temps avec des orages à redouter ce soir et demain. On fera le point avec Marlène Duré. 22h20, notre invité politique ce soir, Philippe Ballard. Il est conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole du Rassemblement national et candidat dans la deuxième circonscription de Beauvais. Et puis juste avant de retrouver Olivier Delacroix et sa libre antenne, vous découvrirez les unes de la presse de votre jeudi.
Europe 1.
Emmanuel Macron avait demandé de la transparence sur les événements de samedi soir au Stade de France. Gérald Darmanin a maintenu sa version, mais il concède que les choses auraient pu être mieux organisées. Le ministre de l'Intérieur a été auditionné en fin d'après-midi avec la ministre des Sports par la commission des lois du Sénat. Il a aussi saisi l'occasion pour s'excuser sincèrement. Arthur Delaborde, vous avez suivi cette audition et le ministre de l'Intérieur a livré un début de mea culpa.
Oui, il y a bien eu des dysfonctionnements et une mauvaise gestion de la foule, selon Gérald Darmanin, qui s'est notamment excusé de l'utilisation disproportionnée de lacrymogène.
Et j'ai vu personnellement deux faits où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène était contraire aux règles d'emploi, notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée. Et j'ai demandé des sanctions au préfet de police.
Le ministre de l'Intérieur a également maintenu les chiffres de 30 à 40 000 supporters anglais sans billets ou avec des billets falsifiés samedi soir, une manière de répondre aux accusations de chiffres gonflés.
D'après les équipes de la Fédération française de football et du Stade de France, plus de 50% des billets, entre 57 et 70% selon les entrées, étaient faux. Ça ne veut pas dire que tous les supporters avaient des billets faux. Il y a eu beaucoup de supporters qui n'avaient également pas de billets.
Le locataire de la place Beauvois a aussi défendu son dispositif et l'action du préfet Didier Lallement, reconnaissant tout de même un nombre insuffisant de policiers pour lutter contre la délinquance.
Nous avons sans doute sous-estimé le nombre de policiers, ou en tout cas l'action de la police de sécurité publique. À partir du moment, ce qui était difficilement prévisible, que l'ordre public dégénérait et qu'on aurait levé les barrages d'ordre public.
Reste au moins une incertitude après cette audition. La préfecture de police a-t-elle reçu et lu la note de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme révélée par Europe 1 et qui anticipait ces débordements dans un premier temps? Gérald Darmanin a reconnu un problème de transmission avant finalement de rétropédaler.
Arthur Delaborde, merci Arthur. Le Sénat qui va mener des auditions complémentaires, mais ce ne sera pas sous forme de commission d'enquête. Parmi ceux qui pourraient être entendus, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, le délégué interministériel aux JO et aux grands événements, Michel Cadot, le consortium du Stade de France, la RATP, ainsi que la Fédération française de football. Alors côté anglais, les accusations françaises ne passent pas. L'UEFA a ouvert une enquête et le club de Liverpool dit avoir déjà recueilli plus de 5000 témoignages sur les incidents aux abords du Stade de France. Adaïs Cordoba, on vous retrouve depuis la Grande-Bretagne.
Oui, le club a reçu 5000 témoignages en moins de 24 heures. Tous proviennent de supporters qui ont assisté à la finale. Billy Hogan, le directeur de Liverpool, les a passés en revue et exige qu'ils soient inclus dans l'enquête indépendante de l'UEFA.
J'ai passé du temps à lire ces témoignages et honnêtement, je suis horrifié par la manière dont certains hommes, femmes, enfants et personnes à mobilité réduite ont été traités de manière indiscriminée. C'est inacceptable et ça doit figurer dans l'enquête indépendante.
Selon ces témoignages, il n'y a pas eu que la violence policière avant le coup d'envoi. Certains supporters auraient également subi des agressions et des vols à la sortie du match. Le club de Liverpool, qui accuse le gouvernement français de diffuser de fausses informations sur les incidents, a écrit à la ministre des Sports et réclame des excuses pour ses fans.
Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Alors on vous en parlait hier. Les services d'urgence pourraient-ils fonctionner normalement cet été? 120 établissements partout en France ont dû limiter leur activité ou bien se préparent à le faire. Illustration à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, aux urgences de la clinique Gentilly. Faute de médecins, elles ont dû fermer hier et elles vont le rester au moins jusqu'à demain. Le reportage de Mélina Fachin.
Sur la façade de cette clinique privée, un tissu blanc recouvre le mot « urgence » et un papier collé sur la porte indique que le service est exceptionnellement fermé. Julien Belmain-Noël, directeur des opérations, n'a pas eu le choix.
C'est la première fois que ça arrive. Nous faisons face à des difficultés de recrutement de praticiens. Et l'été approchant, c'est encore plus compliqué. On travaille activement pour justement faire en sorte de pallier à ces trous, de ne pas avoir à reproduire cette fermeture.
Alors les seules autres urgences de l'agglomération de Nancy, celles de l'hôpital public, ont dû s'organiser en quelques heures, de peur de se retrouver sous l'eau, avec un afflux de patients. Lionel Nas, chef du service.
Nous avons rajouté un médecin, une infirmière et une aide-soignante. Pour savoir que nous avons une activité entre 10 et 20% pour certains jours au-dessus de l'activité habituelle d'un printemps, avec certains jours qui ressemblent à des pics hivernaux.
Pour soulager ses équipes, il en appelle donc aux patients.
Il ne faut pas aller aux urgences si ce n'est pas nécessaire. En premier lieu, il faut appeler son médecin traitant. Et si l'on craint une pathologie un petit peu plus grave, il faut appeler le SAMU. Et puis si la gravité est ressentie comme telle par le médecin régulateur, la personne sera orientée vers les urgences.
Et dès 10h demain matin, les urgences de la clinique de Gentilly rouvriront à nouveau. Nancy, Mélina Fachin, Europe 1.
Décadence infernale, un personnel réduit, les EHPAD sont aussi en tension à l'approche de l'été. Les directeurs des EHPAD demandent également du renfort. Écoutez Florence Arnaise-Maumet, déléguée générale du syndicat national des établissements résidences privées pour personnes âgées.
Il faut du renfort en personnel, donc c'est peut-être cette année encore plus difficile que d'habitude. Nous proposons de renforcer la présence des professionnels libéraux, par exemple, dans les EHPAD, qu'ils puissent intervenir en EHPAD, que les services à domicile puissent intervenir en EHPAD, de mobiliser les étudiants d'écoles d'infirmières ou d'écoles d'aides-soignantes qui pourraient vouloir intégrer des EHPAD pour l'été. Nous pouvons même former rapidement, en 70 heures, notamment des étudiants qui seraient en début de parcours. Nous voulons pouvoir faire correctement notre métier dans un accompagnement bienveillant et serein. Et à ce titre, nous avons besoin de renforts en personnel. Les établissements que nous réunissons deux jours en congrès, demain et après-demain, nous réclament d'ores et déjà ce plan d'urgence.
Propos recueillis par Arthur Pereira. Vous vous souvenez sans doute de l'agression d'un pompier en marge des manifestations du 1er mai. Une street medic de 38 ans, condamnée aujourd'hui à 10 mois de prison ferme. Les images de cette femme de 38 ans avaient été largement partagées sur les réseaux sociaux. Absente aujourd'hui lors de l'audience à cause de sa fragilité psychologique, elle a également été condamnée à un an d'interdiction de manifester et elle devra verser 700 euros aux pompiers au titre du préjudice moral et 1 euro au préfet de police. Une peine disproportionnée selon l'une de ses avocates, maître Ainhoa Pasquale.
Nous sommes évidemment effarés par cette décision qui va au-delà des réquisitions du procureur. On tend à croire qu'en réalité, le tribunal a répondu à la pression médiatique qui existait sur ce dossier depuis le placement en garde à vue de notre cliente. Les réquisitions et la peine qui sont prononcées vont évidemment au-delà de ce qui était nécessaire et justifié dans ce dossier dans lequel notre cliente, je le répète encore une fois, entend s'expliquer. Nous allons faire appel de cette décision et Madame Hammer se présentera, comme elle avait prévu de le faire, devant la cour d'appel.
Un jugement juste, lui répond maître Jérôme Andréhi, qui est avocat du pompier agressé.
C'est assez satisfaisant et puis c'est, je dirais, à la mesure de la gravité de l'agression que ce pompier a subie, qui encore une fois, dans les circonstances dans lesquelles il intervenait, aurait pu être particulièrement grave. Les pompiers désormais se font agresser de manière quotidienne, 300 agressions par an, ça fait quasiment une par jour et c'est assez inquiétant. C'est sûr qu'on aurait préféré qu'elle vienne s'expliquer à la barre. Elle a fait le choix de ne pas venir. Elle a avancé des raisons médicales, mais qui, à mon sens, n'étaient pas suffisamment convaincantes. C'est une manière de fuir un petit peu ses responsabilités.
Tous les deux étaient interrogés par Caroline Baudry. Moins 10% en mai, les ventes de voitures neuves ont encore dégringolé pour le 12e mois consécutif. Le marché est toujours perturbé par la pénurie de puces électroniques fabriquées en Chine, où vous le savez, les lignes de production sont à l'arrêt à cause du Covid. Maud Descamps, la situation pour les constructeurs n'est pas prête de s'arranger.
En effet, avec la politique zéro Covid mise en place par Pékin, de nombreuses usines sont toujours à l'arrêt. L'ensemble des constructeurs automobiles sont donc en manque de puces électroniques, composants essentiels pour les voitures. Résultat, si vous achetez un véhicule neuf, il va falloir être très patient, explique François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile.
Actuellement, toute l'industrie automobile se retrouve bloquée par ce manque de petites puces électroniques nécessaires aux véhicules qui sortent des chaînes de production, qui fait que maintenant on a des délais de livraison sur les véhicules qui s'allongent, On arrive sur certains modèles à un an d'attente. Habituellement, on arriverait dans le pire des cas à 4 mois d'attente, mais vraiment le pire des cas sur certains véhicules très très typés, avec des demandes très spécifiques.
Certains constructeurs ont donc fait le choix de relocaliser la production de ces puces, mais il faut compter 2 à 3 ans pour voir les premières pièces sortir des usines. Et le secteur n'a aucune visibilité sur un retour à la normale. Tout dépendra des décisions prises par le pouvoir chinois.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Alors à combien se monte l'inflation pour les ménages? Elle pourrait entraîner un surcoût moyen de 90 euros par mois, un tiers en raison de la hausse des prix de l'énergie, un tiers à cause des transports et un dernier tiers en raison de la hausse du panier moyen qui est attendu en grande surface. C'est la conclusion d'une étude publiée par le magazine 60 millions de consommateurs. Alors faut-il augmenter les salaires pour faire face à l'inflation? Comment contrer cette crise? Matinale spéciale demain sur Europe 1 à partir de 6h30 autour de Dimitri Pavlenko et avec nos experts. Si vous avez contracté un prêt ou si vous apprêtez à le faire, sachez que les règles ont évolué depuis aujourd'hui. Pour changer d'assurance emprunteur, vous n'aurez plus besoin d'attendre la date anniversaire. Autre nouveauté, Carole Ferry, plus besoin de remplir un questionnaire au moment où vous empruntez.
Exactement. Alors attention, uniquement pour les prêts inférieurs à 200 000 euros par personne, 400 000 euros donc pour un couple. Jusqu'à présent, pour ces sommes, vous n'étiez pas obligé de passer des examens médicaux, mais il fallait remplir un questionnaire sur l'honneur. Eh bien, c'est terminé si vos échéances s'arrêtent avant 60 ans. Par ailleurs, si vous n'avez pas de récidive de cancer ou d'hépatite C pendant 5 ans, vous n'êtes plus obligé de signaler vos antécédents médicaux. Enfin, vous pouvez désormais donc changer d'assurance emprunteur quand vous voulez, et donc faire jouer la concurrence avec à la clé un gain de pouvoir d'achat potentiellement non négligeable selon Maëlle Barnier, porte-parole de MeilleurTaux.com.
Le gain moyen, quand on change d'assurance, il est autour de 15 000 euros. Donc déjà, une fois qu'on sait ça, on voit que c'est quand même pas mal de plein d'essence de gagner ou des courses au supermarché. Maintenant, évidemment, l'intérêt varie selon les dossiers. Plus vous avez un emprunt élevé, plus vous êtes jeune et plus vous avez payé au départ une assurance un peu trop chère, plus le gain sera intéressant.
Alors attention, cela concerne les nouveaux contrats. Pour ceux en cours, il faudra attendre septembre pour pouvoir changer d'assurance.
Carole Ferry. Allez, on part aux États-Unis avec le clap de fin dans le procès opposant Johnny Depp et Amber Heard, le procès qui passionne l'Amérique depuis 7 semaines maintenant. Eh bien, ils sont tous les deux condamnés, mais les dommages et intérêts, Alexis Guilleux, n'ont rien d'égaux.
Oui, c'est Amber Heard qui est la grande perdante de ce procès en diffamation. Selon le jury, elle a bien inventé de toutes pièces des accusations d'abus à l'encontre de Johnny Depp, allégations rendues publiques dans une tribune publiée dans le Washington Post en 2018, dans laquelle Amber Heard se présentait comme une femme représentant les abus domestiques. Pour Johnny Depp, ses déclarations ont ruiné sa carrière cinématographique. Il réclamait 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Il n'en obtient finalement que 15 millions et il vient de déclarer que le jury lui a rendu la vie. Amber Heard recevra, elle, 2 millions de dollars. Elle avait contre-attaqué également pour diffamation, mais le jury a jugé valable seulement une toute petite partie de l'accusation, en l'occurrence une phrase prononcée par l'avocat de Johnny Depp. L'actrice se dit dévastée par le verdict. C'est un revers pour les femmes qui prennent la parole. Et c'est donc la fin d'un procès, vous l'avez dit, de plus de 6 semaines, ultra médiatisé en Amérique. 6 semaines d'un immense déballage d'accusations mutuelles de violence entre les ex-époux et de détails sordides sur leurs relations. Et le revers est double pour Amber Heard, cible de harcèlement et même de menaces de mort tout au long de ce procès. Elle était présente tout à l'heure au tribunal. Elle est apparue profondément marquée à l'annonce du verdict. Une tristesse qui contraste avec le bonheur des fans de Johnny Depp, encore présents en grand nombre aujourd'hui devant le palais de justice de Fairfax en Virginie.
Alexis Guilleux en direct des États-Unis pour Europe 1. Merci Alexis. Un mot sur l'Angleterre qui s'apprête à fêter à compter de demain les 70 ans de règne de la reine Elisabeth. Bien figurez-vous que la France va offrir un cheval à la souveraine et pas n'importe lequel. C'est l'un des plus beaux chevaux de la garde républicaine.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Bonsoir Axel May.
Bonsoir.
Et déjà la dernière session nocturne de la quinzaine.
Oui, la dixième.
Vous rude. Pouvez vous coucher tôt demain.
23, ouais, même pas certain. Enfin, demain, si, vendredi un peu moins, parce que les demi-finales masculines, même si c'est pas en session nocturne, ça peut durer un peu. Alors, Rude, 23 ans. Rude, c'est pas ce qui se passe sur le terrain, c'est son nom. Hein. Rude, Casper Rude, il a 23 ans, il est 8e mondial, il est norvégien. En face de lui, il y a Rune, 19 ans, 40e, danois. Rune, tombeur de Tsitsipas, hein, le finaliste de l'an dernier au tour précédent. Alors, où s'arrêtera-t-il? Ben, pour l'instant, c'est pas très bien parti, puisque Rune a perdu la première première manche, 6-1. Le deuxième set vient de commencer. Il y a juste un partout. Je précise juste qu'entre Rude et Runeux, il y a eu trois confrontations avant sur terre battue. Qu'à chaque fois, c'est Rude, l'aîné, le mieux classé, qui s'est imposé. Puis ça respire vraiment la Scandinavie, puisque même l'arbitre, figurez-vous, est suédoise. J'en terminerai en vous disant que le vainqueur rencontrera Marine Cilic, 33 ans, 23e mondial, qui a battu tout à l'heure Andrei Rublev, le russe.
Alors vous n'avez pas fini, mon pauvre Axel. Pour revenir aux sessions nocturnes, elles font débat.
Oui, oui, parce que par exemple, alors là ce soir il y a du monde, même si ça a commencé un petit peu en retard parce que le match Cilic-Rublev a duré 5 manches. Ça a été un peu polémique hier avec Nadal, Djokovic, ça s'est terminé à 1h15 du matin. La nouvelle directrice de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, s'est justifiée devant la presse qui lui a demandé si ça sert à quelque chose de faire jouer si tard des joueurs. Eh bien, réponse, vous allez l'entendre, de Mauresmo, ça pose question, mais on verra plus tard.
Moi, je suis évidemment dans ma première année, donc j'apprends beaucoup de choses en termes de programmation, notamment sur le tournoi. Et c'est certain que l'horaire des matchs du soir, ça peut effectivement poser des questions de ce point de vue-là. C'est des questions que je me pose aussi, pour être honnête. Et je crois que le bilan, on le fera à la fin. Alors c'est vrai que ça, on peut se dire, c'est 10 matchs. Donc voilà, j'ai pas la réponse pour l'instant.
Axel, on connaît aussi la seconde demi-finale dames.
Oui, oui, ça sera Iga Świątek face à Daria Kasatkina, la polonaise numéro 1 mondiale, a battu cet après-midi Jessica Pegula, l'américaine, tandis que Daria Kasatkina a sorti une autre russe. Les deux demi-finales féminines ont lieu demain, donc Świątek Kasatkina, et puis l'autre, c'est l'italienne Trevisan face à Coco Gauff, l'américaine.
Alors ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas vu de Français à Roland-Garros, mais il y a deux joueuses qui ont le sourire.
Oui, Mladenovic, Garcia, les deux sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de double dames. Elles ont battu une paire chinoise 6-3, 6-3 aujourd'hui. Cédric Chasseur a recueilli la réaction de Kiki, c'est Kiki Mladenovic, son surnom, Christine. Et puis Caro, c'est Caroline Garcia.
Oui, c'est pas le Kiki de tous les Kiki.
Voilà, écoutez-les.
Je crois que c'est beaucoup de joie et vraiment contente de notre match, qui a vraiment été un match abouti du premier au dernier point. On a vraiment réussi à mettre en place le plan de jeu qu'on voulait faire, avoir la bonne agressivité, etc. et rester concentré quand elles ont réussi un petit peu à évoluer et tout ça. Donc franchement, beaucoup de joie de gagner ce match tout d'abord. Et en plus, ça veut dire qu'on est en demi-finale maintenant.
C'est génial, c'est du pur bonheur de retrouver le vrai public de la Porte d'Auteuil, et il fait beau, ça joue bien, un match abouti, on se qualifie pour une nouvelle demi-finale, que demander de plus quoi.
Merci Axel May pour Europe 1 Radio officielle de Roland-Garros, bonne soirée. Tout de suite la météo. Avec Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Christophe.
Avec des orages à redouter ce soir et demain.
Oui, alors d'ailleurs on en a en ce moment entre Saint-Étienne, Lyon et les Savoies. On en a eu, c'est pas tout à fait terminé. D'autres entre Landore et Carcassonne. On a eu aussi un impact au sud de Bordeaux. Et puis d'autres orages encore vont circuler cette nuit sur un axe Bordeaux-Aurillac-Lyon. Un petit peu même au sud de Bordeaux. Et ça va se calmer en fin de nuit, même si on peut entendre le tonnerre encore un petit peu demain matin du côté de l'Auvergne. C'est surtout demain après-midi que les orages vont reprendre. Les régions concernées, les voici. Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, en excluant a priori le Tarn et l'Aveyron, le Centre-Val de Loire, l'Auvergne, la Vendée, le Nord de Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, ça peut déborder même un petit peu sur le Grand Est. Donc des phénomènes isolés par rapport aux vagues orageuses qui nous attendent vendredi, samedi et dimanche, mais même isolés, vous le savez Christophe, un orage, ça reste un orage.
Eh oui.
Avec tout ce que cela comprend, des bourrasques de vent, un risque de grêle, des intensités importantes de pluie. Sur le reste du pays, eh bien écoutez, c'est simple. On va dire au nord de la Loire, une alternance de passages nuageux et d'éclaircies, voire un voile dense, assez dense tout du moins. Plus de soleil à l'est du midi toulousain et en continuant vers la Provence. Je notais simplement que les grisailles côtières du matin sur le pourtour du golfe du Lion pourront persister en journée. Et les températures, elles sont en hausse partout. Allez, comptez 18 à 22 le long de la Manche, jusqu'à la frontière belge et en Bretagne. 23 à 29 sur le reste du pays et même jusqu'à 30 à 33 en Occitanie et en Provence.
Merci Marlène. Prochain point météo avec vous à minuit sur Europe 1.
Europe Nuit.
Informez-vous avec Christophe Pallais sur Europe 1.
Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Christophe.
Pas d'embellie aujourd'hui. Les indices se sont encore battus en vain pour terminer en hausse.
Oui, avec toujours les mêmes inquiétudes qui planent sur les marchés. L'inflation, la hausse des taux, le ralentissement de l'économie mondiale, c'est un cocktail qui freine les prises de risque. Alors l'indice Dow Jones, 7,054%, 32 813 points, moins 0,72% pour le Nasdaq. On a quand même eu des indicateurs économiques solides aujourd'hui aux États-Unis, dans le secteur manufacturier et dans la construction. Mais c'est à double tranchant. D'un côté, ça signifie que l'économie américaine résiste, mais ça peut aussi encourager la Fed, la Réserve fédérale, à relever fortement ses taux. Les taux d'intérêt souverains bondissent d'ailleurs ce soir. Le taux à 10 ans est remonté à 2,95%, alors que la Fed entame aujourd'hui, ce 1er juin, la réduction de son bilan.
Les derniers résultats financiers publiés par les grandes entreprises américaines ont été globalement salués. Avec des actions en hausse.
Oui, forte hausse même pour Salesforce, plus 9,9% pour l'éditeur de logiciels. Ça monte aussi pour le groupe de luxe Capri après ses résultats. Capri qui possède des marques comme Michael Kors ou Versace. Le titre est en hausse de 1%. C'est pas terrible en revanche pour les banques après la mise en garde du patron de JP Morgan, Jamie Dimon, qui est toujours très écouté à Wall Street, qui a jeté un froid. Et il prépare sa banque, la plus grande banque américaine, à un ouragan économique et il a conseillé aux investisseurs de faire de même. Le titre perd donc 1,6%, moins 1,4% dans le même secteur pour Bank of America. Et puis un mot du pétrole qui reprend 2%, soutenu par l'accord européen sur un embargo sur le pétrole russe, 117 $ le baril ce soir à New York.
Alors le marché parisien à présent, il n'a pas tenu la distance après un démarrage en hausse. Il termine finalement dans le rouge ce soir.
Oui, le CAC 40 a raté son rebond et il perd 0,77% à 6 418 points. Marché pénalisé à Paris aussi par les incertitudes sur la croissance économique et les politiques des banques centrales. La plus forte baisse du jour sur le CAC, elle est signée par Total Energy, moins 2,6% pour le géant pétrolier. Fnac Darty est plombé, lui, par une dégradation d'analystes, moins 4,6%. Ça va beaucoup mieux pour l'automobile. On a Renault qui gagne 2,5%, plus 1,6% pour son concurrent Stellantis. C'est du rouge partout en Europe ce soir. Francfort perd 0,3%, moins 1% pour Londres, Milan moins 0,9%. Madrid cède 1,8% et à Paris, donc le CAC 40 recule, moins 0,8%. Il termine à 6 418 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com.
Europe Nuit.
Christophe Pallais sur Europe 1.
22h22, l'invité politique sur Europe 1 avec nous ce soir, Philippe Ballard, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Christophe Pallais.
Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole du Rassemblement national et candidat dans la deuxième circonscription de Beauvais, dans l'Oise. Avant d'évoquer avec vous la campagne des législatives, on va revenir sur l'audition en fin d'après-midi du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports face à la commission des lois au Sénat. Est-ce que les excuses du ministre de l'Intérieur vous ont convaincu ?
Ah non, pas du tout. Non, parce que je pense et nous pensons que Gérald Darmanin, en fait, est enfermé dans ses mensonges. Il n'a plus de porte de sortie. Alors, c'est un peu la toupie qui tourne sur elle-même. Il continue dans son déni. Il nous parle de 30 000, 40 000 personnes. La RATP a clairement dit qu'elle n'avait pas pu transporter autant de personnes au Stade de France. L'UEFA, concernant les billets, nous parle de 2 889 billets. On est bien loin des 30 000, 40 000 de cette fraude industrielle, comme a dit Gérald Darmanin. Non. Non, ce qui est même pathétique, c'est qu'il a trouvé deux lampistes, deux policiers. L'IGPN est saisi pour une utilisation de gaz lacrymogène inapproprié. On ne s'attaque pas au fond du problème. Est-ce que vous avez entendu Gérald Darmanin ce soir nous parler de cette frange orange mécanique qu'on a eue sous les yeux ? On paye des années de laxisme. Il faut voir quand même les personnes. Il y a eu des condamnations de personnes qui ont été alors des mineurs isolés, des délinquants des cités de Seine-Saint-Denis, ou bien des personnes sans papier qui pouvaient
d'ailleurs
parfois
travailler.
Pour l'instant,
le ministre de l'Intérieur a refusé de s'exprimer sur la nationalité des mises en cause.
Oui, bah enfin, on sait très bien, il suffit de regarder ce qui est écrit par plusieurs de vos confrères qui ont assisté aux audiences à Bobigny. Ce sont des sans-papiers. Ben, des sans-papiers doivent pas rester en France, ils doivent être expulsés. Mais ça, il n'y a pas la volonté politique de le faire. L'image de la France est ternie, l'État est nulle part. L'État n'est plus dans la rue, l'État n'est plus dans les hôpitaux quand on ferme des services d'urgence, 130 services d'urgence fermés. C'est une faillite totale et complète.
Depuis ce week-end, Gérald Darmanin concentre les critiques hein, de l'opposition, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Vous pensez, comme Marine Le Pen, qu'il doit démissionner ?
Ah bah je pense que Marine Le Pen, ça oui et Jordan Bardella, ça c'est avéré. Oui, enfin je pense que là il y a des limites quand même. D'ailleurs si vous avez remarqué, même Emmanuel Macron qui reste complètement silencieux. D'ailleurs depuis deux mois on se demande vraiment ce qu'il fait. Mais voilà, c'est au gouvernement de gérer. Oui, il a été élu, mais depuis deux mois il se passe plus grand chose. Voilà, il a un mal fou à former son gouvernement et là, vous avez des ministres qui s'enferment dans un déni de réalité. C'est grave, c'est quasiment une affaire d'État, effectivement.
En même temps, le ministre de l'Intérieur avait mis l'accent dès le début sur ses faux billets et il le montrait encore cet après-midi avec ses billets qui ont été dupliqués 777 fois.
Oui, mais enfin, lui, il parle de...
Donc là, c'était pas un mensonge.
Ses déclarations. Non, attendez, il y a deux choses. Revenez à ses déclarations, déjà, à sa conférence de presse de mardi midi, 13h30 précisément. Je l'écoutais attentivement. Il nous parlait de fraude industrielle. Et il évoquait 40 000 personnes munies de faux billets. Donc là, on est à 2889 pour l'UEFA. C'est pas du tout le même ordre de grandeur. Qui a eu des problèmes avec des faux billets ? Bon, allez,
alors,
pourquoi
pas.
Mais
le fond
du
même,
problème,
hein.
C'est bon. Pas ça. C'est pas... Oui, mais enfin, on a vu, mais ces images sont terribles pour la France, pour ceux qui ont subi ces agressions. Enfin, on regarde des télés espagnoles, anglaises et les télés du monde entier, mais nous sommes la risée du monde entier. On ne veut plus venir en France pour assister à la Coupe du Monde de rugby ou pour assister aux Jeux Olympiques dans deux ans.
Qu'est-ce qu'il fallait faire, selon vous ?
Ah bah déjà, il y a eu un signal d'alerte qui a été lancé à propos des faux billets. Et puis, ce qu'il faut, là, c'est plus global, c'est assurer la sécurité dans le pays. C'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir des mineurs délinquants ceux qu'on a vus à Saint-Denis, on les renvoie dans leur pays. On bloque les frontières, c'est-à-dire il y a moins d'immigration, on régule l'immigration. Et les délinquants, ils sont condamnés et ils vont en prison. Ils ne prennent pas 10 mois avec sursis.
Comment vous expliquez qu'il y ait seulement les supporters anglais qui aient subi ces incidents et pas les Espagnols ?
Je pense qu'il y a eu déjà des... quand on voit les images, parce qu'on peut se référer qu'aux images, il y a des enquêtes et je pense que la vérité éclatera. C'est dans ce virage que se sont à la fois déroulés ces points de blocage avec, effectivement, il y a peut-être eu 2000, 3000 faux billets, mais... Il n'y a eu, les policiers ont été livrés à eux-mêmes. Moi, j'ai fait des émissions depuis samedi soir où j'entends des syndicats de policiers nous dire nos hommes n'avaient pas d'ordre. Il n'y avait pas d'ordre. Voilà, ils ont été livrés à eux-mêmes. Alors, on parle de la démission de Darmanin, mais il y a aussi le préfet l'Allemand. Il faudrait peut-être qu'il se remette en cause de temps en temps. Ça fait 4 ans que Marine Le Pen demande sa démission. Il faudrait peut-être qu'elle intervienne un jour.
Alors, il pourrait être entendu prochainement par le Sénat. Hein. On l'a appris là.
Oui,
il y a
ça serait
minutes.
Une bonne chose. Oui, mais je pense qu'effectivement, ça serait une bonne chose. Voilà, pas laisser les policiers livrés à eux-mêmes et encore une fois, arrêter ce laxisme qui donne ces images que l'on a vues, tout simplement.
Un mot sur les législatives. Marine Le Pen est plutôt discrète ces derniers temps. Certains disent qu'elle fait une campagne en sous-régime et certains dans son entourage sont même inquiets sur la stratégie à tenir. Est-ce que c'est votre cas ?
Non, pas du tout. Je l'ai vu aujourd'hui, donc je peux vous dire qu'elle est à fond et elle a fait plusieurs déplacements. Elle a fait des matinales télé ce matin.
Elle
n'a
pas fait tant de déplacements que ça. Il y a plein de maires un peu partout en France qui disent elle reste dans le Nord, elle ne vient pas nous voir.
Oui, mais Jordan Bardella est dans le Sud. Si vous voulez. Voilà, il y a une répartition territoriale en quelque sorte. Marine est au nord et Jordan au sud. Et Marine sillonne, comme elle l'a fait d'ailleurs depuis septembre jusqu'au deuxième tour. La France, elle va à la rencontre des Français. Aujourd'hui, elle a fait 2 déplacements. Elle en fera d'autres. Elle en a fait d'autres précédemment. Elle s'est accordée quelques jours de repos. Je pense que c'était bien mérité. Après, il y a eu cette période. Les médias étaient concentrés sur Mélenchon, l'accord de NUPES. Ou NUP, on ne sait toujours pas comment on doit l'appeler.
Et on ne sait pas comment l'appeler, mais NUP.
Pardon,
Philippe Ballard.
Oui.
On ne sait pas comment l'appeler, mais NUP, néanmoins, est devant vous et devant la majorité présidentielle, selon les derniers sondages. Hein. Vous n'arrivez qu'en troisième position.
Oui, mais alors NUP, on va rappeler que c'est la France insoumise, que c'est le PS, que c'est les écolos, que c'est les communistes.
C'était pas trop ma question. Vous craignez pas d'être marginalisé dans l'hémicycle ?
C'est factice tout ça, parce que chacun va retrouver son parti d'origine, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose parfois de commun sur le nucléaire, par exemple, ou sur l'islamisme, sur le communautarisme, entre certains communistes
national.
Et certains membres de la France insoumise. Ah ben nous, on est sur
vous
la même ligne entre nous.
Vous fixez quoi comme objectif ? Une quinzaine de députés ?
Non, bien plus. Marine Le Pen a évoqué 60 députés, ce qui permettrait de saisir le Conseil constitutionnel. Bon, les législatives, je pense que établir, ce qui est parfois le cas quand on voit des études d'opinion, des projections en siège, les législatives, ce n'est pas la présidentielle.
On restera là-dessus.
C'est que le peuple vote.
Merci
beaucoup. Le peuple vote. Quand le peuple vote, le peuple gagne. Voilà.
Merci beaucoup, Philippe Allard,
Christophe Ballet.
Conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole du Rassemblement national et candidat dans la circonscription de Beauvais.
Europe Nuit. Christophe Ballet vous informe sur Europe 1.
Allez, on jette un œil sur les unes de la presse de ce jeudi avec le Parisien qui tire son chapeau à la reine d'Angleterre avec ce rendez-vous historique demain. La Croix revient sur le ras-le-bol des diplomates. Les fonctionnaires du Quai d'Orsay qui sont appelés à faire grève ce jeudi pour protester contre la suppression du corps diplomatique. Les Échos font leur une sur la voiture électrique, la crise de croissance avec une voiture électrique à 100 euros par mois. C'est une promesse gouvernementale qui vire, nous dit le quotidien économique, au casse-tête. Et puis Ouest France consacre sa une au papier qui n'échappe pas à la flambée des prix. C'est quand même un peu... Olivier, aidez-moi, je ne retrouve plus ce mot.
Je vous avoue que je n'ai pas vraiment suivi. J'étais en train de répondre à un message
que
Florian était
en
train de me... Alors répétez-moi, quelle est la problématique ?
La problématique est la suivante. Je voulais vous montrer la une de Ouest France sur le papier qui n'échappe pas à la flambée des prix. Je me disais que pour un quotidien, c'est quand même un comble.
C'est un comble.
Je l'ai trouvé grâce à vous.
Grâce à moi. Je n'ai pas fait grand-chose, mais écoutez, c'est trouvé.
C'est un travail d'équipe.
C'est un comble. Vous avez raison. Les pauvres, déjà, ils ont des problèmes. Alors si le papier devient cher, c'est problématique.
Ça n'a pas facilité non plus la presse, voilà.
Tous les matériaux sont
bien sûr,
en...
Bien sûr, et le carton pour les déménagements, etc.
C'est fou, c'est fou. Tout ça, c'est le Covid, on est d'accord ?
Oui.
D'accord. Mais parce que je devais faire une extension...
Il y a un peu la guerre en Ukraine aussi.
Oui, bien évidemment, mais tous les matériaux sont en train de prendre 20%, 25%. C'est dramatique pour le pouvoir d'achat quand même.
Bien sûr.
Ah là là, toutes ces nouvelles.
Bon, vous êtes en forme après ce match de tennis hier ?
Écoutez,
qui vous a un peu privé d'antenne, de la libre antenne.
Oui, qui nous a privé d'antenne et qui a privé tous nos auditeurs, surtout parce que je pense que certaines et certains ont attendu longtemps.
Mais c'était un beau match.
C'était un beau match.
Et je ne sais pas si vous avez entendu nos amis des sports.
Si.
Alors, ils ont tenu l'antenne de 20h.
Jusqu'à 1h30 du matin, je crois.
1h30 du matin, oui.
Non, c'était une grande performance et c'était un super match. Donc, bravo Europe et bravo à Nadal, surtout.
Et puis bonne émission, Olivier.
Merci Christophe et à tout à l'heure à 23h.
À tout à l'heure.
Salut.